À l'émission Marché en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Trouver un souffle nouveau pour traverser le mi-temps de la vie », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Bonjour, amis auditrices, amis auditeurs, qui parcourez ce chemin que je vous propose concernant la façon de vivre le milieu de la vie, le mi-temps de la vie, de façon féconde et équilibrée, alors que nous savons que c'est souvent présenté comme une crise et comme quelque chose de menaçant. Ce que vous avez peut-être commencé à découvrir dans les émissions précédentes, c'est que le milieu de la vie est aussi une extraordinaire opportunité, une chance pour s'ouvrir à de la nouveauté, retrouver des éléments importants de notre propre histoire que nous avons dû mettre entre parenthèses dans le passé, et ainsi rentrer dans une nouvelle fécondité, une nouvelle richesse, une nouvelle générescence dans le sens que nous pouvons apporter des choses nouvelles à d'autres. Mais tout ça, nous l'avons dit, ne se fait pas de façon simple et comme si nous n'avions pas de sacrifice ou de combat à mener. C'est pourquoi on peut dire que le milieu de la vie, le mi-temps de la vie, c'est un moment où nous rencontrons un certain nombre de défis et de chantiers qu'il faut avoir le courage de regarder. Je vous disais que le milieu de la vie, tout le monde, bien sûr, y arrive, puisque c'est une question purement chronologique et biologique. Tout le monde, enfin les personnes qui vivent en tout cas au-delà de la quarantaine ou de la cinquantaine, vont rencontrer cette étape. Certains disent entre 35 et 55, d'autres parlent de 40 à 60, peu importe. Parce qu'en définitive, tout ça n'est pas simplement une question de chronologie biologique. Chacun de nous est unique dans son histoire. Mais en tout cas, c'est environ autour de ces années-là, 35-40 ans, qu'on connaît un moment où on a besoin de faire le point. Je disais que l'être humain est un être en devenir, qui est toujours en chemin, parce que si nous ne progressons pas, ben, nous mourrons. Nous participons au grand cycle de la nature et du cosmos, mais aussi au grand cycle de vie de chacun, chacune d'entre nous, où depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous avons un certain nombre d'étapes à franchir pour nous humaniser et pour nous déployer. Expression donc que j'aime particulièrement. Le moment du mi-temps de la vie est un moment particulier qui peut permettre l'épanouissement de l'être profond que nous sommes. Nous avons dit que à ce moment-là, il nous faut arriver à trouver un nouvel équilibre et une nouvelle façon de gérer nos énergies et de fixer nos centres d'intérêt en fonction de l'âge auquel nous sommes arrivés et du bilan d'une certaine façon ou du ressenti que nous avons par rapport à la première partie de notre vie. Je disais donc que Jung emploie cette image du soleil qui se lève le matin, qui arrive aux zéniths et puis qui, le soir, commence à décliner progressivement, ses rayons aussi se mettant à éclairer une autre face aussi, un autre aspect, par exemple, de la montagne. Et il aime bien comparer la vie humaine à ce mouvement du soleil, la première partie de notre vie en pleine lumière, où nous avons besoin de nous mettre en valeur, de montrer ce que nous sommes capables de faire nos preuves, et on est beaucoup tourné vers l'extérieur. C'est l'extérieur qui domine les premières 40 années. On est là, on est absolument obligé d'être à la hauteur des attentes, etc. Et puis, petit à petit, les choses commencent à se poser. Nous avons commencé à faire le point, nous nous connaissons mieux. Et On ne vit pas l'après-midi comme on vit le matin, ce ne sont pas les mêmes lois, dit-il. Reconnaître et admettre cette courbe de la vie, c'est en fait une invitation à nous adapter à cette réalité intérieure qui émerge de plus en plus au fur et à mesure que nous passons ce mouvement de la transition du milieu de la vie. On n'est plus tellement dans l'expansion des activités multiples, mais on est plutôt dans une certaine réduction à l'essentiel. Alors nous verrons, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir d'activité, et au contraire, nous n'allons pas avoir une grande ouverture à plein de nouvelles choses. Mais il y a des priorités qui changent. Et là, nous commençons à aller dans le sens d'une plus grande intériorité. Ce que la jeunesse a trouvé ou devait trouver à l'extérieur, l'homme de l'après-midi doit le trouver en lui. Alors quels sont les problèmes ou les défis auxquels on va être confronté dans cette deuxième moitié de la vie? La première chose, c'est en ce qui concerne la personne que nous nous sommes construite. Je vous renvoie à ce qu'on disait à propos de la persona, donc le mot employé par Jung pour décrire le masque, qui est un mot donc qui vient du grec. On pourrait dire notre ego, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir dans la vie, nous avons dû donner une certaine image de nous-mêmes, que ce soit à notre conjoint, à nos enfants, au niveau professionnel. Et puis voilà que, arrivé à un certain âge, cette image ne nous satisfait plus. Il y a même une certaine lassitude. D'être, par exemple, le chef d'entreprise qui est toujours sûr de lui, qui contrôle tout, qui garantit tout, qui a les réponses à tout. Ou bien ce père de famille imperturbable au moment des difficultés. Ou cette mère de famille qui est toujours impeccable, dont la maison est toujours impeccable, qui est toujours capable de tout prévoir et d'organiser. Ou cette personne qui, toujours gentille, accueillante, fait plaisir à tout le monde et s'oublie sans cesse. Il y a un moment où on se dit « trop, c'est trop ». C'est moi, c'est bien ce que je voulais faire d'une certaine façon. Oui, je me suis formé à ça, j'ai fait des études pour ça, je me suis marié pour ça. Mais non, moi je voudrais autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Il y a autre chose en moi qui n'a pas encore pu vivre jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est important de l'entendre. Il y a en moi des réalités qui existent, qui poussent, qui ont envie de vivre. Et il me faut trouver de nouvelles priorités et un nouvel équilibre. Si nous voulons aller trop vite pour répondre à ce mouvement intérieur, le danger, c'est de carrément pratiquer des ruptures. C'est-à-dire, c'est une fuite en avant. Je me dis, bon, dans le fond, mon couple vivote, donc autant faire une expérience avec quelqu'un d'autre. Mon travail professionnel me pèse, donc je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Ou bien carrément, j'arrête de travailler pendant un an, je vais me promener, faire le tour du monde. Ou bien je vais chercher un autre travail, mais sans avoir vérifié si c'est vraiment le travail qui pose problème ou si c'est moi-même qui, dans mon être profond, est insatisfait. Avec le risque que durant le nouveau travail, je découvrirai que j'ai rien résolu. Donc pour certains, c'est une certaine fuite en avant, on va trop vite. Et pour d'autres, eh bien, on va se protéger, on va se cramponner, on va s'identifier à son rôle, on va se durcir. On va s'installer derrière les apparences, mais avec le risque de tomber dans la dépression. Donc, première chose, une certaine relativisation du personnage que je me suis fabriqué pour pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Thank you. Un autre aspect, c'est l'acceptation de notre ombre. Là aussi, c'est une expression qui vient de Jung, qui est quand même un grand spécialiste de ces passages du milieu de la vie, qui nous dit que pour pouvoir arriver à la personne que nous sommes aujourd'hui, nous avons dû faire un certain nombre de choix qui nous ont obligés de lâcher prise par rapport à des choses qui pouvaient être soit négatives, soit positives. Dans notre ombre, on peut trouver des éléments qui, dans notre enfance, étaient négatives, destructrices, comme des colères insupportables, des interdits qu'on a intégrés et qui nous empêchaient de nous déployer, des rôles qu'on nous a obligés à jouer alors que ce n'était pas la personne profonde que nous étions. Parfois, c'était de devoir nous former à un métier auquel rêvaient nos parents, mais qui n'est absolument pas ce que nous souhaitions. Et donc là, dans notre ombre, il y a plein de choses qui sont des choses qui, dans le fond, m'ont fait du mal, ont été lourdes et ont été négatives, et m'ont été imposées par mon éducation, etc. Mais dans l'ombre, il y a aussi plein de choses très positives, comme des qualités, des désirs, des valeurs, des potentialités. Peut-être que maintenant que je suis un spécialiste des mathématiques, je me reconnais aussi avec une dimension artistique très importante. Alors que je suis une fille et que j'ai dû être surtout une maman admirable, mais je voudrais bien aussi réaliser toute cette dimension de leadership, par exemple, et de responsabilité professionnelle que j'aurais bien voulu vivre, etc. Donc, toutes sortes d'éléments qui font partie de l'être que je suis, de l'être profond que je suis, et que j'ai dû mettre entre parenthèses pour pouvoir réaliser l'image acceptable qu'on attendait de moi en société. Et là, bien sûr, il y a toutes ces contraintes sociales qui font que on dit ça, c'est fait pour un homme, ça c'est fait pour une femme, un homme ne pleure pas, une femme se consacre à sa famille, etc., etc. Et il y a des aspects de notre personnalité que nous n'avons pas pu aimer ou que nous n'avons pas pu laisser vivre. Mais tout ça est là. C'est un grand réservoir d'énergie qui continue à se manifester et qui pousse et qui a envie d'exister. Et là, cela, nous avons à en prendre compte lorsque nous arrivons à ce milieu de la vie où nous sommes dans une certaine insatisfaction, une certaine lassitude par rapport au stade où on en est maintenant. Un moment où nous nous disons, mais vraiment, est-ce que je vais continuer à vivre pendant 20, 30 ans, encore cela? Et par rapport à cette ombre qui pousse et qui me dit, plus est en toi, et puis tu as de nouveaux choix à faire, il peut y avoir deux erreurs possibles. Une qui renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de la mise en question, un raidissement, une pétrification, parce que j'ai peur du changement. J'ai peur de me découvrir avec des aspects ignorés. Et donc, je me barricade et je vais refouler ces mouvements, ces appels que je sens, qui peuvent me venir d'ailleurs dans mes rêves ou dans certains événements que je vis, peut-être même dans des mouvements émotionnels qui vont me traverser. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je me mets en colère ou je me mets à pleurer ou je me sens tellement sensible à telle ou telle réalité ? C'est une femme qui disait un jour qu'une de ses amies l'avait invitée à venir assister à son exposition de peinture qu'elle venait d'ouvrir. Et en se promenant dans la galerie, cette femme a tout d'un coup pris conscience que dans le fond, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours rêvé peindre et elle n'a jamais osé et elle ne se l'est jamais permis. Et puis, quand elle en a parlé à son mari, en disant « j'aimerais bien pouvoir suivre des cours de peinture parce que je sens que c'est quelque chose qui m'épanouirait et me ferait du bien », eh bien, voilà que monsieur n'est pas d'accord parce que ça impliquerait qu'une fois par semaine, madame irait à l'atelier de peinture et qu'il serait obligé de préparer son propre repas. Alors évidemment, ça n'arrange pas tellement les choses au niveau de la relation de couple. Parce que comme nous allons le voir par la suite de cet ensemble d'émissions, que lorsqu'on est engagé dans ce mouvement du milieu de la vie, il y a des réajustements à faire aussi dans nos relations avec nos enfants, nos parents, notre conjoint. Une autre réaction erronée, c'est justement parce que j'ai vécu des contraintes, des obligations familiales, j'ai été dépendant d'une certaine morale, j'ai été obligé de suivre un certain volontarisme, eh bien, je mets tout ça par-dessus bord. Enfin, je suis libre, enfin, je peux faire ce que je veux. J'estime que j'ai suffisamment donné pendant la première moitié de ma vie. Maintenant, je peux exister et je vais donc prendre le contre-pied de tout ce qui a été la personne que j'ai construite jusqu'aujourd'hui. Et alors, c'est là qu'on voit toutes sortes de changements, changements de profession, divorce, abandon de la vie religieuse, même changement de religion, ou bien, pour quelqu'un qui avait une vie très organisée et exigeante, laxisme total, on se laisse aller, inertie, etc. Quand on refoule trop et tout en bloc, il arrive qu'on tombe dans une perturbation de l'équilibre. Ce qui est important, c'est d'être conscient que tout ce qui est humain est relatif et que donc il ne faudrait pas passer d'un excès à l'autre, parce que ce que l'on a vécu le matin et qui nous pèse aujourd'hui n'est pas totalement négatif. Ça nous a aussi permis de nous construire. Et ce que nous voudrions être cet après-midi, dans cette deuxième partie de notre vie, avec tout plein de nouveaux projets, il ne faut pas non plus idéaliser telle personne si on est pris par le démon de midi, ou idéaliser des réalités qui seraient censées résoudre tous mes problèmes, alors que la vraie réponse est en moi. Alors, il y a une troisième réalité dont je dois prendre compte lorsque j'arrive à ce mi-temps de la vie, parce qu'elle se présente de façon plus explicite à partir de cet âge-là, alors que c'est une réalité qui est en moi depuis toujours. Il s'agit d'intégrer l'autre dimension de mon être par rapport à la féminité et à la masculinité. Nous savons que, homme ou femme, nous avons tous en nous du masculin et du féminin. Jung appelait le masculin l'animus et le féminin l'anima. Et le problème des opposés se manifeste à midi, au mi-temps, par l'apparition chez l'homme et la femme de certaines caractéristiques de l'autre sexe. Il y a des femmes qui, peut-être aussi à cause de la période de la ménopause, vont développer des aspects plus masculins, mais aussi, pas seulement cela, elles vont sentir le besoin, maintenant qu'elles ne sont plus tellement prises par les obligations de la maternité, par exemple, de l'éducation des enfants, eh bien, vont s'engager dans des projets, prendre des initiatives, avoir soif d'avoir un certain leadership, une créativité, un petit peu ce qui était le rôle masculin habituel, et maintenant elles peuvent laisser exister cela. D'un autre côté, on verra des hommes qui étaient fiers de leur virilité, et peut-être des hommes un peu brusques, pas trop en contact avec leurs émotions, qui commencent à découvrir l'importance de la dimension affective, de l'émotion, de la tendresse. On voit des hommes qui commencent à avoir des expressions du visage qui changent. Et ainsi, il y a comme un enrichissement qui se fait dans notre personnalité où on est moins dans la radicalité du masculin ou du féminin, mais on est plus dans la rencontre des deux, dans nos profondeurs. Et ainsi, la femme peut développer ce qui d'habitude est reconnu comme des qualités masculines. Et là, je vois bien que des féministes pourront peut-être réagir à ce que Jung dit ici. Et d'un autre côté, nous allons voir des hommes qui vont être capables de développer des qualités plus féminines. Et par exemple, c'est intéressant de voir quand des hommes deviennent grands-pères. On voit des grands-pères qui, tout d'un coup, ont une capacité de patience, de compassion, de tendresse vis-à-vis de leurs petits-enfants qu'ils n'ont jamais exprimés lorsqu'il s'agissait de leurs propres enfants. Donc, le mi-temps, c'est un moment d'ouverture. C'est ce grand mouvement du fleuve de la vie qui nous travaille. Et donc, nous avons à regarder un petit peu ce grand mouvement et à l'accueillir. Ce qui demande une attitude d'humilité, de reconnaître que nous avons manqué peut-être certaines choses, ou que nous avons à nous ouvrir à d'autres choses, que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne sommes pas réalisés, que nous sommes encore en chemin. Et précisément, certains ratent ce virage, ce grand passage, parce qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils ont en eux, par exemple, du masculin ou du féminin, ou que peut-être ils pourraient aussi mettre en question le modèle qu'ils ont promu pour exister jusqu'à présent, avec le risque du changement, bien entendu, et de la surprise. Enfin, un autre défi qui est important, c'est de regarder en face l'arrivée de la mort, ou si vous voulez, de la diminution de notre être. Mais bon, quelque part, dans nos profondeurs, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan spirituel, nous savons très bien que nous allons finir. Notre organisme nous le dit. Et au fur et à mesure que nous vieillissons, nous recevons toute une série de signaux qui nous disent « Mais oui, tu te concentres moins, tu es moins précis dans tes gestes, tu es moins rapide, tu ne dors plus de la même façon, tu n'as plus la même énergie, etc. etc. » Si nous sommes capables de regarder cela en face, et si nous le vivons dans un chemin d'intériorité, à ce moment-là, eh bien, nous pouvons entrer sur un chemin de consentement. Le consentement à une certaine diminution. Mais ce consentement, c'est aussi une ouverture à une réalité qui est peut-être plus intérieure, spirituelle et même divine. Et c'est pour ça que l'on peut dire que le chemin de ce processus d'individuation est aussi un chemin spirituel, où petit à petit, je dois consentir à l'être profond que je suis, c'est-à-dire un être mortel, un être fiable, un être fragile, un être limité. Ce qui ne veut pas dire que cette deuxième partie ne me promet pas énormément de découvertes, de richesses, mais d'un autre ordre que ce que nous avons vécu dans l'extériorité, dans la première partie de notre vie. Pendant cette première partie, nous étions surtout au niveau de la raison, du contrôle. Maintenant, notre courbe biologique nous amène vers ce chemin d'intériorité, d'individuation. Et c'est l'occasion de prendre conscience qu'il y a en moi, comme d'un côté une courbe biologique qui descend, mais d'un autre côté, une courbe spirituelle qui monte. Et c'est ce que dit le psaume, par exemple, qui dit qu'alors que... et saint Paul disait ça aussi... Alors que l'homme extérieur est en train de se déliter, l'homme intérieur se déploie. Donc c'est un moment de détachement, un moment de liberté, un moment de découverte de nouvelles dimensions de notre être profond. Voilà donc les grands défis auxquels nous sommes appelés lorsque nous faisons cette expérience du passage du mi-temps de la vie, je les rappelle, une relativisation du personnage que nous nous sommes créés pour pouvoir réussir pendant la première partie de notre vie, mais qui commence à nous peser, l'acceptation qu'il y a dans nos profondeurs un certain nombre de réalités positives et négatives qui poussent, qui veulent exister et qui nous appellent à aller revisiter notre histoire personnelle et peut-être à laisser vivre des dimensions de nous-mêmes positives, généreuses et riches que nous avons mises entre parenthèses pendant si longtemps. L'intégration des différentes dimensions de notre être, le masculin et le féminin, afin d'être plus complet, plus harmonieux, plus créatif. Et puis, ce chemin d'épanouissement du soi qui accepte la mort, la rencontre un jour avec une transcendance, l'acceptation de la fragilité, mais qui ouvre vers une nouvelle fécondité. Donc voilà comment nous pouvons approcher de façon spirituelle cette grande expérience de la vie, de l'amour. Nous allons continuer à creuser ce qu'on appelle ici le processus d'individuation avec Jung. Je rappelle que c'est le chemin que chacun doit parcourir pour devenir la personne unique qu'il est appelé à être. C'est ce que Jung appelle le soi, qui était déjà présent dans nos profondeurs dès notre naissance, mais qui n'a pas pu se développer complètement parce qu'au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons dû laisser dans l'ombre un certain nombre d'éléments pour pouvoir développer la personnalité que nous devions montrer, réaliser pour pouvoir réussir la première partie de notre vie, mais qui n'a pas permis à notre personnalité authentique, notre soi, d'émerger et de se déployer. Ce qui est important dans ce moment du grand passage de la vie, c'est que l'ombre et la lumière vont émerger en parallèle. Et c'est un aspect essentiel de la transition du milieu de la vie. D'un côté, je vais découvrir des insatisfactions, peut-être des regrets par rapport au passé, des frustrations, mais en même temps, je vais découvrir de nouveaux aspects de ma personnalité, de nouvelles aspirations, de nouvelles découvertes. Et à ce moment-là, eh bien, cela va m'amener à, peut-être, si j'accepte de parcourir ce chemin, une nouvelle vie, une nouvelle fécondité et une grande richesse. Alors, comme je le disais, il va y avoir des moments douloureux, difficiles, de réajustement, de renoncement à certaines choses dans notre histoire, de risques à prendre et de tensions avec notre entourage, mais d'autres moments qui seront des moments d'une grande richesse et où nous allons véritablement grandir. Nous le disions, notre vie est traversée par toute une série d'étapes que nous devons franchir le mieux possible et où chaque fois nous avons de nouveaux défis. Dans la crise d'adolescence, par exemple, l'enfant voit que ses repères habituels de dépendance par rapport aux parents, à la vie qui l'entoure, ne sont plus suffisants et il veut se réaliser. Il veut devenir autonome, il veut s'affirmer. Et dans ce chemin d'affirmation, il y aura une souffrance. Parce que d'un côté, il veut être lui-même et il va se construire contre ses parents. Et d'un autre côté, il va souffrir de sa fragilité, de se rendre compte qu'il n'est quand même pas aussi autonome qu'il le voudrait. Et d'ailleurs qu'on ne lui reconnaît pas cette autonomie, puisque étant mineur, ses parents ne lui permettent pas de faire tout ce qu'il voudrait faire. Eh bien, cette tension de l'adolescence, où d'un côté on veut abandonner l'enfant et on veut devenir l'adulte, mais on n'y arrive pas encore et on est en passage, en crise. On dit parfois que la crise ou la transition du milieu de la vie, c'est d'une certaine façon l'adolescence de l'adulte. C'est ce passage obligé où pour devenir pleinement moi-même, il me faut renoncer à un certain nombre de fonctionnements qui ont été satisfaisants pour un temps, mais prendre le risque de l'inconnu, de la découverte, de lâcher mes sécurités pour découvrir de nouvelles dimensions de mon être et me réaliser pleinement. Et c'est précisément ce mouvement-là que nous allons creuser bientôt dans une autre émission.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.